Dans notre programme de juin, il était prévu que le Fonds monétaire vienne au mois de septembre en mission et que d'ici là, il serait souhaitable que les rapports soient disponibles. Donc, les structures de contrôle, effectivement, ont mis des bouchées doubles pour pouvoir rendre ces rapports disponibles. Nous leur en savons gré. Et donc, par rapport aux deux marchés, bon, le vérificateur a sa lecture là-dessus et puis la Cour suprême a déposé son rapport final où il nous fait des recommandations par rapport à un certain nombre de transactions qu'il faut peut-être qu'on retraite autrement dans le budget. Maintenant, pour ce qui concerne le bureau du vérificateur, il s'est beaucoup appesanti sur un peu le montage financier du marché concernant les forces armées. Il a un peu parlé du marché de l'avion, mais il a été convenu que ça, quand même, c'est un marché de souveraineté. Donc, là encore, ça a été conclu sur le coup de l'article 8, qui est en dérogation du Code des marchés, et qui, d'ailleurs, est à la base de tous ces errements-là, en réalité, il faut le dire. Donc, par rapport à ce contrat sur les équipements militaires et habillements et autres équipements de protection des militaires, effectivement, il était prévu que ça soit livré sur 3 ans. Disons, livré en 2014, mais payé sur 3 ans. Et pour que la banque accepte à ce moment-là de financer ce marché, la banque a demandé que le ministère des Finances donne une garantie. Donc, le ministère de la Défense nous a écrit pour nous demander cette garantie. On l'a accordée. Maintenant, à la suite de la mission de septembre, on s'est accordé avec le fonds que comme tous les biens ont été livrés et que les marchés ont suscité trop de discussions, il vaut mieux qu'on les intègre dans le budget et qu'on annule carrément la garantie, comme recommandé par la Cour suprême et le bureau du vérificateur. Donc maintenant, les étapes avant cela, c'était de prendre des textes complémentaires pour encadrer l'article 8, en fait, qui fait une dérogation au Code des marchés publics pour ce qui concerne les dépenses de défense, de sécurité et d'intérêt essentiel de l'État. Donc là, on a pris un décret pour vraiment baliser tout cela et dire comment ce processus doit être mené et confirmer que même dans ce cas-là, les dépenses doivent être exécutées conformément à la loi de finances, c'est-à-dire ordonnancement, liquidation, paiement, comme cela se doit. Donc voilà, globalement, maintenant, il y a des recommandations par rapport à des sanctions éventuelles d'un fonctionnaire qui serait en cause dans ces dossiers-là. Le gouvernement a confirmé son engagement à continuer vraiment dans ce sens-là et à faire le nécessaire par rapport au suivi des recommandations.
Concrètement, est-ce à dire qu'il y a une reprise totale des activités avec le FMI? Pouvez-vous nous donner beaucoup plus de détails là-dessus?
Oui, en fait, ça a été levé, mais quand même, on attend que le rapport de mission du Fonds monétaire soit approuvé au niveau des instances du Fonds, et cela demande 2 à 3 semaines. Mais déjà avant de quitter Bamako, la mission a eu à faire une conférence de presse avec nous-mêmes pour expliquer aux uns et aux autres où est-ce qu'on en était et confirmer que maintenant on peut considérer que le feu est ouvert par rapport au Mali, mais ils vont donner une lettre formelle de confort aux différents bailleurs de fonds pour pouvoir procéder à leur décaissement. À partir du 21 octobre, ils seront en mesure de donner ces lettres.
Nous avons appris aussi que les pays du Sahel, à marge de ce sommet de l'Assemblée générale de la Banque mondiale et du FMI, se sont regroupés pour créer une organisation sous-régionale. Qu'en est-il l'objet et quelle va être la vision?
Merci Kayatou. Je pense qu'on a tous effectivement au niveau de la région Sahel intérêt à faire en sorte que l'initiative du G5 soit mieux connue parce que comme vous savez, il y a eu toute une foison d'initiatives pour le Sahel ces dernières années et donc un chevauchement d'attributions et de visions qui complique un peu les choses. Donc les pays de la ligne de front, c'est-à-dire ceux qui font front directement aux zones de conflit et au désert par rapport justement à ces trafics illicites et autres activités qui se déroulent dans la zone. Donc ça va de la Mauritanie au Mali, au Niger, en passant un peu par le Gourma, le Burkina, et en remontant au niveau du Tchad. Donc, ce sont ces cinq pays qui se sont mis ensemble pour créer le G5. Et le G5 a deux vocations. Au point de vue sécuritaire, il y a des réunions statutaires qui sont prévues pour les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité pour mieux coordonner un peu la surveillance des frontières sur ce volet. Mais il y a un volet qui, pour nous, est central, c'est le volet un peu coordination de toutes les ressources qui vont être dirigées sur nos différents pays. Et là, on a mis des équipes d'experts pour travailler déjà à un portefeuille de projets, projets régionaux et projets nationaux, qui vont faire l'objet de financements par des partenaires au développement qui déjà sont engagés à nos côtés.